I'm going to go to the hospital. Thank you. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la conférence de la société Gestion-Monde. C'est heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre des grandes conférences de l'Italie. La soirée se déroule ici. D'abord, on passe la conférence de M. Larson de 60 minutes et par la suite, une période de questions de 30 minutes. Mais M. Larson, le roi émette de sa conférence, si c'est ça, autrement, c'est à lui de décider. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir M. Peter Larson, président de Canada Stars Palestine, organisation canadienne de défense des droits de la personne se concentrant au Proche-Orient. Il a séjourné à plusieurs reprises en Israël et en Palestine au cours des 10 dernières années. Collaborateur à différents forums sur la question et professeur de l'Université Carleton dans le cadre de cours destinés aux retraités, il collabore aussi à la région au Journal de droit. Il reçoit en 2012 la médaille du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II en reconnaissance de son travail exceptionnel sur les relations canado-arabes. Ce soir, M. Larson pourra certainement apporter des précisions et peut-être même des réponses aux interrogations qu'on se pose tous. Qu'est-ce qui a poussé le Hamas à attaquer Israël de cette manière, tuant 1400 personnes, dont plus de 1000 civils? Et qu'est-ce que reste-t-il faire? De l'autre côté, qu'est-ce qu'Israël essaie de réaliser avec sa campagne de bombardement meurtrier? Quand est-ce que cela s'arrêtera? Parole de monsieur, M. Peter Larson.
Vous m'entendez bien, c'est vrai? Je suis très content de voir des visages que je reconnais plusieurs. Je ne sais pas si ça veut dire que vous avez une mauvaise mémoire ou un bon souvenir. Mais vous êtes déjà déterminé. Alors, ce soir, effectivement, je vais prendre ce poste très bien. Je ne sais pas si c'est quoi, mais j'ai personnellement perdu des amis. J'ai perdu des amis palestiniens à Gaza qui sont morts. La famille est une des personnes qui sont prisonniers et morts, ses parents sont plus morts, ils sont à l'hôpital. Alors qu'à l'hôpital, il n'y a pas de soins médicaux. Je ne sais pas où ça va aboutir. J'ai aussi perdu des amis canadiens vivants. Pas dans le sens de mort, mais parce que plusieurs Canadiens ont mis des vies, sauf que je ne suis pas assez vivant. Ah, vous allez me juger quand je fais la présentation ce soir. Alors, je vais commencer en citant le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, qui a fait un topo devant le Conseil de sécurité de l'ONU, en disant que l'attaque du Hamas de cette octobre n'a pas eu lieu dans le vide. Il y avait quelque chose de mieux. Pour cela, il était attaqué carrément par l'ambassadeur d'Israël pour demander sa démission. Israël avait décidé d'interdire tout employé de l'ONU à l'intérieur d'Israël, là où ils ont décidé, parce qu'ils ont
question des classes. L'Assemblée générale avait la plus énorme majorité du Conseil général, l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, dans ce sens, il faut qu'il y ait un peu de buzz. Est-ce que ça, ça va comme ça? On est comme ça? Ok. N'hésitez pas à lever la main si ça. Et là, derrière, ça fait derrière, vous entendez bien. On peut remonter très loin dans l'histoire. Je propose qu'un point de visite dans le croissant de la Deuxième Guerre mondiale, fin de la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait facilement remonter à la fin de la Première Guerre mondiale, mais je vais commencer en 1947-1948. Alors, après l'Holocauste, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait cet énorme problème. Il y avait 6 millions de Juifs qui ont été tués en Europe, suite à des années de discrimination intérieure. Et on avait une certaine sensibilité de culpabilité, la sensation de tout, parce qu'on n'avait pas grand chose, on n'avait pas fait beaucoup pour les Juifs. En fait, même on a refusé les Juifs qui ont été éliminés en 1939, le fameux bateau Saint-Louis, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et à la fin de la guerre, on voulait faire quelque chose pour les Juifs, mais on ne voulait pas les Juifs. On était encore très antisémites. Il y avait même un haut fonctionnaire canadien qui avait dit One is too many, un c'est trop. Et donc, le Canada avait endossé le projet sioniste, c'est-à-dire de créer un nouvel État en Palestine, un État pour les réfugiés européens. Ça, c'était la Grande-Bretagne avait le contrôle de la Palestine à la fin de la Première Guerre mondiale, c'était un mandat. Voilà. Et donc, Grande Bretagne a offert une partie de la Palestine, qui n'était pas de l'heure, il a offert ça aux Juifs européens. Et le Canada, il était pour quelque chose. D'ailleurs, il y a tout ce voyage de notre premier ministre, M. Pierson, qui était ambassadeur du Canada auprès de l'ONU à l'époque. Et c'est le Canada était un des 11 pays qui a proposé ce qu'on appelle la partition de la Palestine pour en donner une petite moitié aux immigrés européens. Voilà. Alors, cette proposition, elle était proposée par un comité de 11 États, dont le Canada, proposait un État 50% de la. On parle de la superficie. 50% un nouvel État juif, donc pour les juifs européens qui venaient de s'installer là. Et il y avait un certain nombre qui avaient déjà commencé à s'installer avant ça. Et il y avait 45% pour les Palestiniens. Mais il y avait un problème. Et le problème, c'était qu'il y avait déjà 1 million d'Arabes qui vivaient là. Alors, comment créer un État juif où il y avait déjà d'autres gens qui étaient indiqués. D'autant plus qu'il y aurait peut-être 2 millions d'immigrés juifs qui étaient venus sous le contrôle britannique 20 années auparavant, et il y avait 1 million d'Arabes, donc les juifs étaient un tiers de la population. Alors comment est-ce qu'on fait un État juif avec une majorité juive quand nous sommes une minorité? C'est un problème. Comment le faire? Bon, il y a une possibilité, c'est celle de tuer tous les Arabes. La possibilité. Et l'autre possibilité, c'est de faire venir beaucoup d'immigrés, d'autres immigrés européens. Mais ça, ce n'est pas un projet qui se fait du jour au lendemain. Ce sont des bateaux, ce sont toute une organisation. Et donc, il était devant le secteur que la seule option réaliste, c'était d'aller les faire, de les envoyer ailleurs. Il est expulsé. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après le vote de l'ONU, ils ont commencé à expulser les Palestiniens à coups de fusil, à coups de massacre, ils ont voulu. Et il y avait effectivement plusieurs massacres. Les Palestiniens ont résisté, mais ils étaient très peu équipés pour résister parce qu'ils résistaient déjà à l'occupation britannique. Et les Britanniques ont mis ça à cette interdiction totale pour les Palestiniens d'avoir des armes. Alors qu'ils donnaient des armes et fournaient des immigrés juifs pour créer leur État. Donc c'était une bataille qui était très peu illégale. Et
750 000 Palestiniens étaient expulsés dans les traitements culturels. Ça s'appelle le NAFTA. Comme Lila a dit, donc je propose de parler de mais si vous avez des questions au fur et à mesure, surtout si vous avez des questions de qualification, quand vous lisez de la main, posez des questions pour qu'on soit tous à la même longueur d'onde. Si vous avez plutôt des contestations, attendez après qu'on puisse finir mon propos si vous avez convenu. Bon, alors, le vote, comme je l'ai expliqué, c'est le 29 novembre 1947. Et c'est ensuite une période de 7 mois avant la création de l'État d'Israël. Pendant ce temps-là, les forces sionistes commençaient à expulser les Palestiniens. Et comme je dis, il y avait 750 000 qui étaient expulsés. Et je ne sais pas si, derrière, sans doute, vous voyez mal la photo, ce n'est pas important de le voir en détail, mais c'était le chaos. C'était un chaos qui pleut. Parce qu'il y avait la peur, il y avait des massacres. Alors, il y a un certain nombre de gens partaient au Liban, dans le nord, et partaient en Syrie, dans la Jordanie, dans le sud, et aussi à Gaza. Et là, on va parler de Gaza. C'est pour ça que Gaza est extrêmement important. Et même il y en a qui partaient par le Russe, il y en a qui partaient vers l'intérieur, mais ce qui fait par la suite est devenu la Cisjordanie. Je ne sais pas la Cisjordanie. Et si tu peux revenir un diapo avant de vous dire quelque chose. Non? Il y a un temps après, je vais revenir dessus parce que je vais vous expliquer un peu la carte, la partition. Je me rends compte que j'ai passé trop rapidement là-dessus. Beaucoup de gens sont partis à Gaza. Et Gaza est devenu la plus grosse concentration de réfugiés palestiniens. Donc c'est très important de comprendre ça parce qu'aujourd'hui, à Gaza, presque 80% des gens qui vivent là ne sont pas de là. Ils sont des réfugiés. C'est un autre sens. Je crois que je vois les gens. Est-ce que tu le vois? Tu vois la diapo?
Oui, oui, je vois la diapo. J'avais un mal à l'état.
Ok, bon, je vois juste.
En fait,
madame pose la question. À quel moment est-ce que l'ONU est intervenu? C'est ça la question? Alors, les États-Unis ont dit à l'ONU qu'il allait s'en laver les mains pour le 15 mai 48. L'ONU, donc 6 mois avant ça, l'ONU a pris un vote. C'est un vote de l'Assemblée générale. La résolution 1440 de l'Assemblée générale qui effectivement autorisait. On peut dire la partition, on peut aussi l'appeler la confiscation d'une partie de la Palestine. Les votes de l'ONU et de l'Assemblée n'ont aucun pouvoir contraignant. Mais ce que l'histoire du monde à la création de l'État d'Israël.
Alors, je vous parle pour vous. Alors, selon ma présentation, comment est-ce que le Canada aurait voté? En faveur ou contre? Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous pensez que les États-Unis ont voté? En faveur ou contre? Comme j'ai dit la Jordanie.
Non.
Palestine, comment est-ce que la Palestine a voté? Vous n'avez pas le droit de vote. Pas le droit de vote dans le pays qui était divisé en deux. Hein? La moitié de pays qui est venu à l'Union européenne. Ok, je pense qu'on est capable d'avancer. Mandat, c'est un mot poli pour une colonie. On le voit à l'époque de la décolonisation, mais en 1921, après le l'état de l'Empire, la région est divisée entre la France, l'Angleterre et un petit peu de Pologne aussi. L'Angleterre avait le mandat pour la Palestine. Non. Alors, c'est pour ça, en 1947, après la Deuxième Guerre mondiale, avant. Avant la fin de la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de pays d'Afrique. C'est tout sous l'Empire ottoman, il y avait des provinces, des pays. Alors, la piste de Jordanie n'existait pas, la Syrie n'existait pas, le Liban n'existait pas. Tout ça, c'est le fait des Européens qui ont fait des protestes. Quand on voit des lignes droites comme ça dans le monde, on sait que ça ne peut pas être sur le monde. Oui, beaucoup de. Comment? Ah non, le casque. Il casque bleu, non. Comment? Oh, ça, c'est beaucoup plus près. Oui, monsieur, madame, je vous parle. Oui.
Comment est-ce que Gaza est devenu déjà une terre de refuge? Déjà à ce moment-là.
Comment est-ce que Gaza est devenu
une terre de refuge?
Une terre de refuge?
Oui, pour les Palestiniens.
Pour Gaza et le centre d'Israël, c'est comme une grenade qui a explosé, les gens qui sont courus dans tout le monde, y compris vers Gaza dans le sud. Gaza était une région qui était souvent envahie, soit par les Mamelouks, soit par les Alexandre le Grand, après du passé, tout dans cette région-là. Et c'était une région assez riche en industriellement, parce que c'était en bois. Et on recevait des eaux de collines de Hebron Hill, des collines de Hebron, maintenant ça ne marche plus parce qu'ils avaient capté tous ces eaux-là, et on n'a plus le gaz. Dans le temps, c'était connu pour ses richesses et ses richesses. Ok, la partie orange, voilà, la proposition de l'ONU, ça, tout ça, c'est la Palestine. C'était le mandat de la Palestine et tout contrôle des États-Unis. Alors que, après la guerre, ils ont donné l'indépendance, ils ont donné la Syrie et la Palestine, mais ils ont gardé un mandat pour la Palestine.
Voilà.
Alors, donc, ça c'est de la partie science proposée de partir à la Palestine. La partie orange est que la partie qui est dévouée à l'État juif. Et la partie jaune est que pour le nouvel État arabe, palestinien.
Vous voyez déjà, c'est drôle, hein, c'est pas double.
Et c'est parce que la majorité de la population juive, de l'immigration juive, avec une intelligence, c'est pour ça que si on essaie d'organiser les frontières, pour que là, on va presque une majorité juive, même dans cette région orange-juive, il n'y aura pas de majorité juive, mais presque. Et aussi, après un certain déterminant, vous ne voyez pas ici, mais Jaffa, Jaffa c'était la plus importante ville palestinienne, et Jaffa était exclue. Jaffa faisait partie de l'État arabe. C'est drôle, mais l'État c'était arabe, Jaffa aussi. Pourquoi? Parce que si on avait inclus Jaffa, ça faisait trop d'arabes dans le nouvel État. Dans le mandat, dans la résolution, Jaffa était exclue. Le lendemain du vote, les forces sionistes ont commencé à expliquer les Palestiniens du Jaffa, parce que pour eux c'était très important stratégiquement. Alors, ça c'est la carte, parce que la carte est claire, c'est bon? Ok. Oui.
Moins intéressant, on a perdu le meilleur terre pour nous, c'est ça la logique. Mais pourquoi il y a mis tout ça à Israël, que pour les Anglais et aussi pour les Israéliens, c'était très stratégique pour deux raisons. D'une part, il y avait une frontière avec la Jordanie du Sud, et il y avait aussi le port ici de cette année sur la mer Rouge. Hein? Donc c'était très important politiquement de l'avoir. Maintenant, Israël a commencé à exploiter, il y avait très peu de gens qui vivaient ici. Ça, c'est un autre propos sur les besoins du Jordan. Ça, c'est une autre dénomination. Oui.
Juste un point, quand la France avait aussi des mandats sur le Syrie, c'est pas uniquement le
Royaume-Uni. Même comme vous dites, il y a cette manigance entre eux pour couper le contrôle, etc. Et les Anglais, en particulier, avaient promis la Palestine aux Arabes, ils avaient promis la Palestine aux Juifs, et promis à la France qu'on va s'entendre avec vous. Donc, c'est la première fois dans l'histoire que l'Angleterre a fait un mauvais jeu. Hein. Bon. Oui.
Non.
Les Anglais voulaient.
Par contre, elle dit oui, on accepte. Sachant très bien que ça s'appelle
un pas en avant, il faut le faire un autre pas par la suite.
Ok. Suivant. Bien. Effectivement, là, c'est une série de quatre.
Oui, quatre.
Successives. Ici, à 47, au moment du vote, du Royaume-Uni, ça c'est le mandat par les fonds, et il y avait un certain nombre de colonies juives ici. Ce sont des unités juives qui sont venues sous l'égide, c'est le contrôle britannique. À ce moment-là, en 47, ils avaient pris assez, à peu près 7% des terres, et ils étaient déjà 30% de la population totale. Alors, ça, c'est le vote de l'ONU. Vous voyez que ça suit plus ou moins le peuplement qui existait déjà. Donc, le vote de l'ONU avait proposé tout le blanc de l'Israël, c'est pas bien. Et cette chose que beaucoup de gens ne savent pas, le vote proposait trois éléments. Un État juif, un État arabe et Jérusalem. Jérusalem était vu comme un corpus separatum sous contrôle de l'ONU, un peu comme Berlin était à la fin de la société. Il faudrait que c'était vu comme étant très important pour les musulmans et les juifs, donc ils étaient en cours. Et ça, c'est une des raisons que les zionistes forts n'étaient pas d'accord avec la proposition de l'ONU, parce que nous, on veut Jérusalem. On l'a accepté. Donc, ils l'ont accepté de fait, non, légalement, mais ils sont battus, et aussi, on voit ici, là, parce que j'ai parlé de Gaza. Gaza, qui était à l'origine, c'était maintenant le lendemain du vote, les gens commençaient aussi. Il y a, sur les plages de Gaza, il y a un musée. J'appelle le musée de la libération de Gaza. Et il y a des panneaux en dedans où les sites de l'Ordre du Bois ont commencé à expliquer les Arabes. Ils ont dit que expliquer les terroristes, c'était expliquer les Arabes. Et beaucoup, beaucoup de gens de Gaza sont venus ici aussi dans Gaza. Bon, alors, ça, à la fin de cette période-là, on arrivait à cette situation-là qui s'appelle avant 67. Donc, de 47 à 67. C'est plus ou moins la situation. Alors, Israël a plus tard, et la Palestine est réduite à sa ouest, qui a oublié de 55% de la territoire qui était proposé par l'ONU, ils ont 82%. Et les Palestiniens, eux, sont au Beyrouth, en Jordanie, en Amman, et beaucoup à Gaza. Et là, après 67, il y avait la guerre de 67, Israël a pris le contrôle de tout. Donc, avec les écoles de l'Astro, les Palestiniens contrôlent quelques parcelles plus séparées les uns des autres. Ça, c'est la situation. Même si il y a la partie actuelle, parce que c'est plus accepté maintenant, mais c'est il y a deux fois. Ok. Donc, une question là-dessus, est-ce que c'est ce qu'on va faire? Ok. Oui, il y a certains voix.
C'est quoi les colons dans la figure à vous? Est-ce qu'ils sont en accepté de faire ou qu'ils sont stables?
Vous voulez répéter la question
parce que le colon qui a été dans la ville, on a fait tous les terres ou on a pas mal envoyé
Alors, quels sont les colons? Est-ce qu'on a acheté les terres ou est-ce qu'on a pris les terres? C'est ça la question. Ok. La réponse dépend de l'époque et l'endroit. Par exemple, les juifs ici, c'était une société de colonisation juive, une société européenne de colonisation juive qui ramassait de l'argent pour acheter des terres. Okay? Alors, acheter des terres ici, du point de vue des Palestiniens, c'était des colons. Hein? Ben, ils se disaient eux-mêmes colons. Quand ici, ça, c'est une terre que les Israéliens ont pris ici, c'était pas ici, c'était au bout du lit, vous partez. Moi, je connais des gens, un vieux monsieur qui m'a amené à sa maison, à Jérusalem. La maison est là, il était trop isolé ici et tout. Et moi, je suis là. Alors, je l'ai quitté. Et il n'a jamais pu avoir une conversation quelconque. Donc, ici, maintenant, ce qui arrive maintenant, c'est que là, il y a une colonisation acharnée
à bout de vie, là, c'est un homme qui continue. Les sionistes sont vraiment déterminés à prendre le coup. Et ils veulent, même les sionistes disent, on a eu une erreur en 1947 parce qu'on ne s'est pas débarrassé de tous les Palestiniens, sauf un certain nombre qui soit resté. Et si vous voulez parler de ça, je peux expliquer pourquoi certains sont restés, mais les trois quarts étaient expliqués, mais les quarts sont restés. Ça va? Oui? Ok. Alors, depuis le début, les Palestiniens ont résisté à la déportation, comme vous pouvez imaginer. Ils ont fait une résistance militaire, comme certains qui restent. L'OLP, un organisme de l'État, croisé la frontière, va attaquer les installations militaires et ainsi de suite. Ils ont fait appel aux nations arabes. Au moment donné, les Palestiniens espéraient que Nasser, le président d'Égypte, allait les libérer. Ce n'est pas marqué. Bien sûr, ils font plein de manifestations. Ils appellent au boycottage d'Israël. Vous souvenez peut-être que vous connaissez peut-être le mouvement de BGS, Boycott Divestment Sanction, c'est-à-dire qu'il y a une pression morale et économique d'Israël. Et aussi, bien sûr, les Palestiniens sont malheureusement connus pour le terrorisme. Évidemment, je ne peux pas appuyer le service, mais je comprends très bien d'où ça sort avec la frustration de continuer à faire le faire. Il y a, comme je dis, ça n'a pas marché, aucun de ces approches n'a marché. Israël était bien trop fort, et était aussi très appuyé par les États-Unis et par les pays comme le Canada. Malheureusement, c'est vraiment la malheureusement. Les Palestiniens avaient plusieurs organisations de résistance politique, dont l'OLP, qui était l'Organisation de libération de la Palestine, c'était Yasser Arafat, vous souvenez de son nom, évidemment en latin. La Front populaire de libération de la Palestine, qui était plus radical. Fatah, un des partis politiques, il y avait le djihad islamique, et là, il y avait le Hamas. Tout ça, c'est un background pour venir à parler du Hamas, qui sont des nations qui sont aujourd'hui. C'est quoi le Hamas? C'est un parti politique palestinien. En arabe, le nom c'est le mouvement de la résistance islamique. C'est un Hamas, c'est le mot Hamas, c'est un peu le c'est pas comme le petit, c'est que en 87, dans la première intifada, je veux dire révolte, après le corps d'enfant. C'était basé sur le principe strictement religieux. C'était très religieux. Et c'était très social. Aider les vieux, aider les pauvres, sous un tas de la population, pour les membres, et de ce lieu-là. Initialement, au début, le Hamas était encouragé par les jeunes. Parce que le Hamas était très vieux, Yasser Arafat était l'ennemi numéro un, c'était un mouvement laïque, donc ça tenait un peu la bisbille entre deux, ça servait les intérêts d'Israël au début. L'objectif du Hamas, c'était de libérer toute la Palestine, y compris Israël, et établir un nouvel État basé sur le principe islamique, ça c'est le fait à mettre, le fondateur. Il était à moitié paralysé, et il est bien dans la question. Alors, il y avait un premier manifeste du Hamas, en 88, qui appelait à la lutte armée contre le Fatah. Et ils ont aussi comporté des déclarations, et je pense que tout le monde ici, le Canada, comme il y a 40, 50,
l'article 13 a dit clairement, il n'y a pas de solution, c'est la question palestinienne qui se bat par la djihad, la lutte. Les initiatives, les conférences internationales sont des pertes de temps. Et je pense que vu de leur expérience, je comprends pourquoi ils viennent de cette conclusion. Par contre, l'article 22, c'est le pouvoir mondial du Fils, et dès qu'on l'a, c'est quand même rigolé un petit peu. Le Fils était derrière la Révolution française, la Révolution communiste, avec leur argent, ils ont formé des sociétés secrètes telles que le Club Rotary, le Lyon et d'autres dans différentes parties du monde dans le but de réaliser les intérêts communs. Ils n'ont pas mentionné les sociétés Saint-Jean-Baptiste, donc je pense que ça peut être la cause. OK. Mais en 2005, un changement de cap, au moins dans les stratégies, ils ont décidé de ne pas seulement se cantonner sur les déterminés, ils se présentaient aux élections. George Bush avait proposé, insisté, d'avoir la démocratie, d'avoir des élections, et Hamas a dit OK, on sort de ça. Il savait que Abbas, le remplaçant de Abbas, était très nerveux, il était venu sauver les attentats américains corrompus, alors que eux, à l'époque, ils étaient très durs, fermes, mais très propres. Moi, je connais, par exemple, deux Palestiniens amis en 2005, qui m'ont dit qu'ils ont voté Hamas, ils ne sont pas du tout d'accord avec les idées religieuses, mais Hamas, ce projet, c'était réforme. Alors, ce programme, c'était réforme, il y avait des observateurs internationaux, y compris, comment il s'appelle, le NPD, Bouloré. Bouloré, Bouloré était observateur. Alors, c'était déclaré comme une élection très propre. Surprise, Hamas a gagné au lendemain. On voit ici la carte, qui s'appelle ici Gaza. Ça, c'est des circonscriptions. Je ne sais pas comment il se passe ça. Hamas a gagné presque ici, ici, il a gagné presque ici. Hamas a gagné à la grande surprise de l'Israël, à la grande surprise des États-Unis. Et les 87 observateurs auraient dit que l'élection était libre et équitable.
Alors,
oui.
Ils ont gagné
ici. Oui. Ils ont gagné partout.
Non,
excuse-moi. Je vais monter le ciel. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Je vais monter le ciel. Dans toutes ces circonscriptions-là, et là, il a une autorité palestinienne, c'est à l'époque, c'était un passage autorité palestinienne, qui avait presque beaucoup moins de voix. Ce qui s'est dit, c'est que Bush et Israël ont refusé d'accepter le résultat de l'élection. Or, il y avait une élection un an avant pour la présidence. C'est un peu le système français. Les élections législatives sont séparées des élections pour le présidentiel. Il arrive en France et voit que la cohabitation, François Mitterrand avait la cohabitation. Il y avait des socialistes, mais la majorité ne le sait pas. Maintenant, Abbas avait gagné les élections présidentielles. Vous avez raison. Abbas avait gagné les élections législatives. C'est ça? Ce que les Américains on laisse de côté le résultat des élections législatives. Depuis ce temps-là, Abbas continue à gérer comme s'il était comme président, sans la législation. Alors, ça, c'est l'Assemblée, si les gens avaient été permis de siéger. Ça, c'est Abbas, ça, c'est. Quand c'était le Qatar ou le Palestinien. Ça n'a jamais été convoqué. Alors,
Et il n'y a pas d'idée de nouvelles élections. À la place de Fatah, continuer à l'énerver avec la fille d'Israël, la fille des Américains, au grand dam des élections législatives. Et même, les candidats, je pourrais vous dire tous, il y a beaucoup de candidats là, avec une meilleure vision. L'Assemblée nationale s'est convoquée, de nombreux candidats de Hamas ont été arrêtés, mais il y a un certain nombre qui sont déjà, comme toujours, prisonniers. Hamas est interdit, il n'y a pas de sélection. Abbas n'a pas été en mesure de prendre le contrôle à Gaza. Il a réussi à prendre le contrôle, continuer sa mainmise sur la OSS. Il n'a pas réussi à contrôler le Gaza. Du coup, Abbas contrôle le Cisjordanie et Hamas contrôle. Vous savez, hein? C'est pour ça qu'on a cette division maintenant. Ok? Et il n'y a pas eu d'élection depuis 15 ans. Et si vous posez des questions, je peux vous parler ma théorie pourquoi il n'y a plus d'élection. Bon. Alors, en 2017, l'Arabe est venu voir que ça a changé. Son manifeste, sa charte, le projet de l'année, ils ont fait une révision de la charte. Entre autres, ils ont éliminé ce langage un peu caricatural et antisémite qu'ils avaient. Et il spécifie que son combat n'est pas contre les juifs comme tel, mais contre les sionistes qui occupent le terre. Et aussi, ils ont mis un peu d'eau dans leur. Si j'ai dit 20 islamistes, c'est pas. Ils ont diminué un peu l'Israël. Et Israël, bien sûr, a dit ça. C'est pas sérieux, mais Patrick Martin, qui était journaliste communautaire à l'époque, il dit qu'il trouve que c'est un pas important et que le Canada devrait engager une discussion avec Hamas sur l'avenir, complètement exclu de toute conversation sur l'avenir de la Palestine. Ok? Maintenant, Hamas, du coup, devient un peu le gouvernement. Un territoire qui est petit, c'est 40 km long, 5 km de large, c'est peut-être 15% de la superficie de la ville d'Ottawa. Ottawa, maintenant, c'est très grand, c'est 365 km. 2 millions de personnes, et c'est une véritable prison à ciel ouvert. Il y a des entourés de murs, caméras avec des tailleuses automatiques. Il y a quelqu'un qui reste dans un bâtiment, il y avait des caméras, il peut surveiller ce qui vient trop proche de murs. Le mur était impénétrable, au moins c'est ça que pensaient les Israéliens jusqu'à 7 octobre du Soudan. Et sa peau, leur revenu estimé mensuel sur les 300 piastres. Et presque tous sont des réfugiés. Donc ce ne sont pas des barrières, ce sont des réfugiés. Ils n'ont qu'un souhait, c'est de retourner d'où ils étaient expulsés à travers leurs parents ou même leurs grands-parents étaient réfugiés. Ils sont apatrides. Ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas de passeport. Même quand des fois ils arrivent à voyager ailleurs, mais ils ont un document spécial de voyage, mais ce n'est pas un passeport comme nous. Nous, on prend le voyage devant un passeport comme étant automatique, et on sait que si on a des problèmes en autre pays que donc, on peut faire appel au consulat canadien pour nous aider. Qui sont tant bien que mal, c'est un peu pas dans la situation, mais au moins on a ça, c'est toujours pas ça. Et 40% d'eux sont des jeunes, donc en fait 25 ans.
Le taux de
d'instruction, d'autorisation, est-ce que souvent les gens sont surpris de savoir qu'il y a 6 universités à Gaza. Et de 13 universités, je ne parle pas
que ça nous parle de temps, de monde, de toutes ces choses-là. Mais ils vont beau avoir la formation scolaire, il n'y a pas d'emploi. Donc, il ne peut pas sortir, il n'y a pas d'emploi, et il vivrait 300 piastres par mois. Oui, monsieur.
Est-ce que l'université
est en l'air? Sans doute non, parce qu'il ne faudra pas les donner, mais ils sont. Je ne saurais pas vous dire. Je dis que non, parce que c'est. La plus grosse, c'est une université islamique de Gaza. Mais on peut imaginer, vous savez, qu'il y a un Parce que l'ONU, je ne pense pas que l'ONU finance directement les universités, mais l'ONU finance les écoles. Les écoles pour les réfugiés, pas pour les non-réfugiés, parce que 20% de la population des Gazaux n'a pas réfugié, donc eux, ils n'ont pas de subvention de l'ONU, mais les gens qui sont réfugiés, qui. Et quand ils financent les écoles, c'est-à-dire payer les professeurs. Les professeurs, eux, ont de l'argent, finalement, sans doute, ça devient une sorte de. Pour les universités, parce que les jeunes ont un métier et ainsi de suite. Bon. Alors la structure est la force vraiment. Ils ont des Hamas et des membres partout dans la société palestinienne, dans les Cisjordanie, dans Israël même, à Jérusalem, dans Gaza, et même dans les camps de réfugiés. C'est un parti politique, un courant politique. Il est devenu la plus puissante organisation de résistance. C'était vu comme ça par les Palestiniens. Même si les gens ne sont pas tellement d'accord avec ce que je veux dire, ils voient que Abbas n'est pas en mesure d'empêcher la croissance de l'économie. Alors, Abbas prétend pouvoir se battre contre. Il y a beaucoup de gens qui. On ne connaît pas le succès interne ou le nombre de membres, mais on estime qu'il y a peut-être entre 6 000 et 15 000 militaires, politiques. Les politiques forment le gouvernement de Gaza et ça fournit des services étatiques normaux comme éducation, santé et ainsi. Alors, je fais un. Une référence un peu utopiste, ça va être ça. Là, il y a un aspect analogue que vous comprenez. Hamas est à la fois un gouvernement, imaginons le parc ou le pays au pouvoir au Québec, où les gens se plaignent ou non des égouts, d'éducation, parce qu'ils doivent fournir des services. C'est une organisation. Politique, avec un objectif, et l'objectif c'est la libération de la Palestine, n'est-ce pas? Et aussi c'est une idée de récupérer notre pays. Je pense que c'est normal, je pense qu'on peut dire que s'il y avait un peu ces trois éléments-là, il y avait un aspect de gouvernement, un aspect politique, mais aussi un aspect d'inspiration. C'est beaucoup de gens, même s'ils n'étaient pas membres du parti, ils pouvaient se reconnaître, n'est-ce pas? Hamas, c'est beaucoup comme ça. Okay. Alors, je vais vous montrer ici, c'est pas important ici, des drapeaux verts de Hamas qui sont interdits partout en Palestine. Lors des grosses manifestations, souvent sur les drapeaux, et on le cache vite avant que la police arrive, parce que c'est pas ce mot de carte. Oui.
Est-ce que depuis l'édition sur l'existence de Hamas, un certain des liens formels avec les frères musulmans que le Hezbollah?
La question est de savoir quels sont les liens actuels entre Hamas et le. Actuellement, depuis le 7 octobre, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous donner une réponse très claire. Je pense qu'ils ont des relations. Hamas est des représentants à Istanbul, en Turquie, dans d'autres pays arabes. Ils ont des contacts avec Hamas, avec les gens, mais ils ne sont pas tous sur la même. Même, évidemment,
le président Hezbollah, avec un mot du jour il y a 10 jours à peu près, disant que c'était Hamas qui avait décidé de faire cette sortie. Nous, on n'était pas convités, on n'a pas de gain. Et quand Israël ne nous attaque pas, on ne va pas se mêler. Donc il y a certaines. Je pense que les gens de Hamas n'étaient pas tellement contents, mais voilà. Oui,
peut-être.
Alors, oui. Je ne sais pas. Tout ce que je peux demander, c'est que Hamas était issu du Frère musulman à l'origine. Ils sont séparés en 87, comme je dis. Et Frère musulman était une organisation religieuse djihad sur toute la région. Tout le monde musulman, alors que Hamas est décidé du mouvement national. C'est bien la différence qui s'occupait de le problème des Palestiniens en particulier. Donc, quelles sont les relations? Ils ont sans doute des relations, mais je ne sais pas si je ne sais pas dans le secteur.
Mais qui
finance
Hamas?
Comment?
Qui
finance Hamas? Je ne sais pas. Mais sans doute. J'imagine qu'il y a un certain afflux qui vient de Qatar, mais beaucoup de gens, et manquent au moins à Gaza, alors c'est partout, les profs à l'université, les gens qui travaillent, les médecins, beaucoup donnent de l'argent à Hamas, parce qu'ils voient Hamas comme leur défenseur. D'accord, je pense qu'on fait beaucoup de tapas sur la collection de Hamas, mais quand je suis là, quand j'étais là, ce n'était pas le sentiment que j'ai eu. Les gens voyaient Hamas, ce qu'ils n'aimaient pas dans Hamas, c'était le prostitute, le déguis, c'était pas ça qui prenait de l'argent pour avoir des avocats ou autre.
On n'entend pas.
Excusez-moi, je n'ai pas manqué de l'intérêt, madame a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour Hamas, et moi, mon impression, c'est que les gens de Hamas ne gagnent pas beaucoup. Donc, je sais que les profs, on m'a dit, il parlait plusieurs profs à l'université islamique de Gaza, qui eux travaillaient volontairement à moitié de l'âge. C'était leur éducation. Deux personnes auxquelles je pense qu'ils sont morts. Bon, alors en 2018, Hamas a fait une autre tentative, que c'était la Grande Marche de retour, la Great March of Return. C'était une désobéissance. Comme les élections ont été réussies, des centaines de milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes, ont apprécié à la frontière en réclamant le droit de retour. Ils avaient l'idée que Israël n'oserait pas à Israël et que c'est un appel à l'Occident, un appel au secours à l'Occident. Mais ça a raté. Les Israéliens étaient très d'accord, très prêts à les tuer, donc ces deux temps. J'étais passé une semaine. Ils ont tué deux temps, ils ont blessé plus de 20 000 personnes. Et les pays occidentaux ont plus ou moins. La seule fois que Trudeau est intervenu à ce stade, c'est quand un docteur canadien avait été blessé. Et les Israéliens, et même les Israéliens avec ciseaux pour couper le papier. Et là, alors, c'était un peu montrer sa bravoure. Il court à la côtière, il coupe un petit peu de ce remède, un peu comme un profondeur. Et neuf fois c'est vite, c'est vite. Mais une fois c'est vite, c'est changé. Moi, j'ai fait ça avec moi, j'étais souvent un gars de la maison, mais moi, je reste ici, je n'ai pas de raison, c'est là pour voir, pas pour participer. Sinon, tout ça, là, donc. Tout ça, pour essayer de vous expliquer comment je vois le dilemme stratégique de la main. C'est mon dernier diapo. Les hommes, les femmes et les enfants qui vivent à Gaza ont besoin d'une solution. Ils veulent retourner à leur terre. Ils veulent la terre d'hypocrite, ils veulent la terre de vie normale. Ils voient, quand ils montrent les anciens. Blanc appartement à Gaza, tu peux regarder par le ciel. Tu peux voir les terres de ton grand-père. Ils ont travaillé pour tout le monde. Et quand tu vis 600 emplois, 300 places de mois, et ils vivent dans des piscines, ils s'amusent, ça t'arrange, ça rentre. Alors, les conditions à Gaza, ça drive d'année en année, même en 2021. L'ONU avait dit qu'en 2022, les conditions seraient invivables. Et on attend en 2023. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire eau non potable. Ça veut dire qu'il y a souvent des usines qui ne sont pas traitées. La plage qui est polluée. Ça veut dire l'électricité qui est contrôlée par l'intelligence. On dit, plus d'une fois, je revenais à mon hôtel. Avec mon chanson de la lumière, c'est bon, parce que les trains ne sont pas très. Non, pas seulement les trains, c'est pas smooth, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens d'avoir dans cette ville. Et en crise sanitaire, il y a beaucoup plus de maladies de cette sorte qui viennent, et des maladies psychologiques. Et moi, je parle des psychologues et des psychiatres, hein, c'est fou, hein. Alors, quand Nathanaël dit que les gens de Hamas sont des animaux, on dit ben, qui est les animaux comme ça? Comment est-ce que ça va dire qu'ils ne sont pas des animaux? Alors, quand ils ne sont pas seulement en Gaza, dans toute Jordanie, les colonies israéliennes continuent de croître, Hamas ne peut y faire rien, Israël semble. Le monde semble placé, le Palestinien, ferme. Alors, ils ont trouvé qu'une fois une solution démocratique, quand on fait un droit, ça comporte. Il n'y a pas de solution pacifique, quand on fait une manifestation pacifique, on se fait massacrer. Alors quoi? Est-ce qu'on va mourir à ce sujet? Il y a, jusqu'à là, il y a 14 000 personnes tuées par les bombardements israéliens. C'est terrible. Alors, chaque année, il y a 10 000 qui meurent pour des maladies qui sont préventives. Hein? Donc, c'est terrible que ça arrive tout d'un coup, mais c'est la continuation. Alors voilà, Hamas a voulu trouver une façon d'attirer l'attention sur le monde pour que le problème soit adressé au niveau supérieur. Que par le monde international. Alors, ça, c'est la fin de ma présentation. Je vais essayer de voir si on est en train de se faire. C'est bon? C'est bon? Bonsoir? Oh non, pardon. Je vais prendre dans le dos, vous allez dire. Madame, monsieur.
Alors, les appels qui est censé pour amener la solution de deux États par le gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, la question est de savoir qu'est-ce que je pense de la solution à deux États. Je vais répondre en deux temps. Je pense que Israël n'a jamais eu l'idée de faire un. Eux, ils voulaient le faire dès le début. Mais ça passait politiquement, internationalement, on est pour une solution à deux États. on peut continuer à négocier, mais on continue à prendre des airs pendant qu'on négocie. Et je pense que pour les gouvernements internationaux, comme Canada, c'est aussi un peu plus ensemble. Donc ça passe politiquement. Et si on n'a pas trop de frais, ça passe politiquement. Mais je ne pense pas que c'était jamais le projet du gouvernement. Deuxième aspect, même si Israël avait été exact, même si Israël avait été d'accord, et il y avait des Israéliens qui étaient d'accord, je ne pense pas que ça allait apporter une solution pour les trois quarts des Palestiniens. La solution à deux états pourrait peut-être plus marcher si c'était ça que, franchement, une carte, c'est que n'importe quel cas. Si c'était vrai que la majorité des populations vivaient ici, donc il y avait une zone israélienne et une zone palestinienne, on pourrait imaginer une solution de deux états. Même si cette zone-là est 22% de la terre originaire, donc c'est un jour, c'est possible. Et c'est pour ça que seulement le corps, de la population palestinienne vit ici. Le cas, il y a des gens à Gaza, il y a des gens qui vivent dans Israël, et en plus, il y a 7 millions de Palestiniens réfugiés en Syrie, en Jordanie et en Liban. Donc, la clé de ceux qui mettent de l'avant la solution de deux États, on laisse de côté tous les autres. Donc, les autres, c'est pas bon, ils sont. Je ne pense pas que ça va se marcher. Alors, n'importe quel Palestinien qui a signé l'accord pour les États, il va se faire exécuter. On pourrait créer un deal. Ça ne pourrait pas marcher. Selon moi. Il faut que ça soit beaucoup plus radical que ça. Selon moi. Il y avait. Monsieur. Les accords de Kyoto, pourquoi ça a pas d'accord? Les accords de Kyoto, c'était une façon de tenter de formaliser cette solution de deux États. Beaucoup de Palestiniens étaient contre, mais certains Palestiniens disaient, au moins on prend ça et on peut peut-être aller devant ça, parce qu'ils ont trouvé qu'Israël n'a pas respecté, au lieu d'être un point de départ, c'est un point de recul. Et ça, c'est pour ça finalement, le séparat où les gens existent, sinon ça ne marche pas.
L'accord est
porté
sur quoi?
Alors, je vais vous dire, le bon accord de flow, c'est que plus ou moins, pour entériner ça, okay, mais en le divisant en trois zones différentes, et on dit aux Palestiniens, vous avez le droit maintenant de gérer de zone A, c'est un zone B, on tous les deux, on c'est surtout occupation israélienne, n'est-ce pas? Hein? L'idée de la chose, c'était de diviser ça en trois zones différentes, une zone qui était sous contrôle palestinien, une autre zone qui était sous contrôle palestinien, israélien et une zone multiculturelle. Et l'idée, c'était que dans 5 ans, ça allait permettre que le palestinien à étendre le contrôle de tous les zones. En fait, c'est l'inverse qui s'appelle le livre. La zone seule qui était sous contrôle de l'Israël va commencer à bâtir des colonies. Donc, pour les États, pour le cas, presque consensus sur les Palestiniens, parce que c'est une trace. Monsieur, là.
Je peux savoir, à l'intérieur du Gaza, l'autorité, c'est l'autorité de Hamas.
Exact.
Ils sont c'est le gouvernement, c'est l'État, c'est le
pouvoir. Exact.
C'est tous les services municipaux.
Voilà.
Mais comment est-ce que ça se comporte? Est-ce que c'est un État de droit, ou est-ce que c'est une régime qui fait taire, ou ceux qui se lèvent dans le faire, est-ce qu'ils ont peur de parler haute voix, ou dans mon opinion?
Comment
est-ce que
ouais. je vais vous raconter une anecdote du tout. Chaque fois que j'étais là, j'étais invité par un église. J'étais chrétien, d'ailleurs. J'étais invité par un église, j'ai donné des cours d'anglais pendant une journée avec une femme. Et après, il y avait une réunion de plusieurs personnes, toutes ces gens. Il y avait un gros débat. Je n'ai pas compris de ce que je veux dire, c'est un arabe, je ne parle pas d'arabe. Et il y avait un jeune homme qui avait un peu de mon sexe, mon interlocuteur. Et d'ailleurs, même on interprète dans le sens culturel comme dans le sens linguistique. De quoi il parlerait? Il dit, trois personnes vous verrez, il était vraiment.
On n'entend pas.
Excusez-moi, merci. Les trois gens qui étaient à côté étaient avec Fatah, les autres étaient avec Hamas, et ils étaient très, très contents avec quelque chose que le gouvernement Hamas avait fait. Donc, des tours, excusez-moi. Alors, moi, j'ai dit à mon ami, à ma copine, je lui ai dit, je pensais que c'était la petite ici, et là, là. Il m'a répondu comme ça, je ne sais pas, il existe ici. Alors que moi, je pensais que c'était un juste, dans une dictature, c'est une juste pauvre. Mais non, je ne pense pas qu'à moi, je suis, quand je montre, quand que j'étais là, je peux laisser sa porte ouverte. Hein? Il y avait une moralité triste. Et sans doute, il y avait des. Je n'ai pas dit, après tout, j'aurais voulu aller voir une prison ou aller voir un cours pour savoir. Je n'ai pas de choses personnelles pour apporter ça. Mais j'ai l'impression que dans cet esprit, ce n'était pas une dictature féroce comme on le présente souvent.
Pourtant, je n'ai pas de notion depuis 18 ans.
Voilà, mais Hamas, c'était pour les élections. Vous savez?
Oui.
J'ai entendu dire que les prisonniers politiques sont évidemment au centre, à part évidemment les otages, oui, mais les prisonniers politiques sont au centre de ces négociations-là. Je voudrais me parler de comment on vit là-bas en Cisjordanie et à Gaza avant le 7 octobre par rapport à ce qu'il apprend de mettre en prison, comment la vie était une horreur pour les gens qui pouvaient à n'importe quel moment se arrêter, torturer. Et combien de prisonniers y a-t-il dans ces prisons-là?
Ok, donc vous avez entendu une question d'ailleurs. Je suis loin d'être un expert là-dessus, mais je pense connaître là-dessus. On dit qu'il y a 4000 prisonniers palestiniens dans les prisons. Ils ont fait plus de centaines de jeunes personnes.